Sur Netflix, Tropic Criminel sur France 2, Catherine the Great sur Canal+. Il est 20h05 sous les sunlights des tropiques, l'émission de Xavier Le Harper sur France Inter.
Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 1, épisode 14, l'émission qui chaque semaine décrypte et analyse l'actualité des séries télé et qui vous conseille ce qu'il faut regarder ou au contraire éviter à tout prix. Cette semaine, dans Une Heure en Série, un démon vengeur et vaudou en cité avec Mortel sur Netflix, enquête au soleil antillais et policière de choc dans Tropic Criminel sur France 2 et enfin Russie du 18e siècle et pouvoir autocrate avec Catherine the Great sur Canal+.
Une heure en série, Xavier Le Harper.
Vous avez pu tous admirer mon accent russe.
Très beau.
Impeccable, sans caricature, avec énormément d'élégance. Comme vous d'ailleurs, j'ai envie de dire, ni caricature et beaucoup d'élégance. Avec nous aujourd'hui, c'est toujours un immense plaisir, Ariane Allard, qui écrit dans Cosette et Positive. Bonjour Ariane. Marjolaine Boutet, qui écrit dans Phosphore, entre autres, bien évidemment, et Benoît Lagan, que l'on retrouve avec impatience tous les vendredis matins dans le 5-7 de Mathilde Munoz à 5h53, très exactement.
C'est
ça. Je parle pour vos fans qui sont nombreux et nombreuses. Votre charisme, évidemment. Alors, nous avons du courrier et enfin, nous avons du courrier critique. Voilà. Enfin. Parce qu'on a énormément de courriers l'audateur et je vous en remercie. Mais en tout cas, j'avais invité les auditeurs à nous dire, mais n'hésitez pas, si vous avez quand même quelques remarques négatives ou en tout cas relativement négatives à nous faire, faites-le. Et c'est le cas cette semaine. Elles sont constructives et j'en suis ravi. Nicolas Pulicciani nous écrit, auditeur de la première heure, j'ai été surpris par vos commentaires élogieux lors de la dernière émission. Comment avez-vous pu aimer cet innommable bazar qu'est le bazar de la charité, cette série, oups, putassière et absolument grotesque. Des dialogues qui sonnent creux et faux, une reconstitution complètement fantaisiste des lieux et des événements, en plus de plonger dans la plus vulgaire obscénité avec cette scène de l'incendie. Bon, on a compris, Nicolas n'était pas tout à fait d'accord avec nous, mais tant mieux, c'est aussi cela l'essence du débat. Autre courrier, Stéphane Chopek, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, cher Stéphane. J'ai accueilli la nouvelle de votre émission sur les séries avec enthousiasme, je me permets quelques retours, puisque dans l'une des dernières émissions, vous les demandiez, nous encourageant même à être critiques. Absolument, Stéphane. En gros, alors, j'aurais peut-être pas dû l'autoriser quand même, finalement. Gros reproche, la programmation des séries chroniquées. Bon, ça, c'est moi, hein. J'imagine qu'il y a obligation de parler de programmes diffusés sur les chaînes principales de la télé française. Mais alors, du coup, quel ennui. L'évocation de séries françaises indigentes. Vos chroniqueurs, gentils, commencent d'ailleurs leur critique par pour une série française, c'est dire. À la place d'autres comme Succession, The Capture, trop brièvement évoqué, ou Animal Kingdom, rend l'émission bien peu prescriptrice. Aïe. Mais c'est normal, hein, j'avais ouvert la boîte de Pandore, entre guillemets. Alors, non, ce ne sont pas des séries françaises par principe, ce sont des chaînes gratuites, cher Stéphane. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus réserver cette émission uniquement aux plateformes et aux gens qui dépensent 10, 15, 20 euros par mois pour s'abonner effectivement sur les plateformes où il y a un grand nombre de séries passionnantes, on est d'accord. Mais les chaînes gratuites que sont M6, que sont TF1, que sont France 2, que sont Arte, bien évidemment, Ariane me le précisait, peuvent être également des sources. On a parlé d'excellentes séries françaises ou non françaises. On se souvient par exemple de Mental sur TV Slash il n'y a pas si longtemps. Donc, désolé si ça ne vous plaît pas, mais encore une fois, c'est une volonté de notre part de diversifier l'offre. Il y a Benoît qui me fait un signe. Je termine juste par Succession. Bah, Succession, il y a déjà 2 saisons et je préfère faire des séries qui viennent de démarrer pour les débats. C'est quand même plus facile, plus ouvert pour les auditeurs. Et The Capture, je suis entièrement d'accord avec vous. Je l'ai évoqué brièvement, mais elle est inédite. Donc, pour l'instant, je ne vais pas évoquer en débat une série que les auditeurs ne peuvent pas entendre. J'espère que ces explications vous auront convenu, cher Stéphane, et que vous resterez quand même un fidèle auditeur, même si nous ne sommes pas très prescripteurs. Benoît.
Oui, juste pour répondre à la question des séries françaises, moi je pense que c'est important, quand on est un média comme France Inter, de parler de la production française, parce que c'est bien beau de se cacher les yeux sur ce qui est produit en France, et même si on trouve ça peut-être indigent, hein, s'il pense ça, il a sans doute raison pour plein de séries, mais c'est important, plus on parlera des séries françaises, plus on donnera peut-être aussi envie d'en faire et de les faire changer aussi, ces séries françaises.
Et puis, c'est pas à nous de préjuger de la série. C'est pour ça qu'on arrive avec une petite semaine de retard pour ne pas non plus embarrasser la série lors de son démarrage. C'est pas à moi de juger sur papier. Si sous prétexte qu'elle est française, elle va être ratée par principe. C'est à nous de le découvrir et c'est à nous d'en débattre. Une fois encore, les avis sont contradictoires. Et d'ailleurs, nous allons le constater d'ici peu avec le premier débat de notre émission Mortel sur Netflix depuis le 22 novembre. 6 épisodes créés par Frédéric Garcia, qui a travaillé sur Sam et Scam, on parlait il y a 30 secondes de TV Slash justement, après Marianne, autre série française, s'essayant au fantastique, la plateforme Netflix dégaine Mortel, où il est question d'envoûtement, de démons et de meurtres impunis.
Il y a quelque chose dans l'air, quelque chose de mauvais qui approche, désobéissant, fourbe.
T'as vu coller des affiches pour retrouver ton frère? Je peux t'aider?
Attends. Tu crois que si j'avais besoin d'aide, je viendrais voir un clochard comme toi là?
Je m'appelle Obé. Je peux te donner des pouvoirs pour retrouver ton frère. Mais vous devez être 2.
Victor!
Non!
Obé se laissera pas faire.
Mais vous emportez avec moi!
Dans un lycée de banlieue, Sofiane, qui veut à tout prix découvrir le meurtrier de son frère, et Victor, ado psychiquement fragile et rêvant d'un peu de popularité, sont hantés par Obé, un démon qui réclame son dû de sang et de vengeance. Pour assouvir ses fins et faire de nos 2 héros les instruments de ses funestes destins, il leur offre des super pouvoirs. De son côté, la jeune Louisa, petite fille d'une prêtresse vaudou, va tout mettre en œuvre pour contrecarrer les plans d'Obé. Alors dans les rôles principaux, Karl Malapa, qu'on a vu récemment dans un très joli film qui s'appelait rêve de jeunesse d'Alain Raoust, Nemo Schiffman, qu'on a pu apercevoir dans L'Empereur de Paris, de Jean-François Richer, et Manon Brèche, qu'on a vu dans Baron Noir. Le Parisien a résumé
et
cette
plus belle
série.
La vie.
Et dans Plus belle la vie.
Oh,
drame, j'ai oublié Plus belle la vie, Marjolaine, heureusement que vous êtes là. Je reprends donc Le Parisien à résumé Mortel comme étant le Kechiche qui rencontre Buffy. J'adore cet effet d'annonce, mais là maintenant il va falloir vérifier ce qu'il en est. Et Ariane, qui avait gardé une âme de jeunesse absolue, n'est-ce pas, et qui est souvent hantée par des démons dont je ne veux pas connaître la
intérieur,
nature,
intérieure
bien évidemment, qu'avez-vous pensé de Mortel?
Je vais faire plaisir à notre auditeur récalcitrant, parce que j'ai un avis plutôt négatif sur cette série, même si je pense qu'il y a des choses à sauver. Moi, ce qui m'a gênée en premier lieu, et vraiment, c'est la réalisation. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression que c'était une réalisation qui frise l'amateurisme. C'est peut-être fait exprès.
C'est fait exprès.
Voilà. Bon. Mais il y a une surenchère de gros plans, de plans contre-plongeons qui sont tellement systématiques que
et
ça devient risible.
Aux auditeurs en grand angle, ce qui fait que ça anamorphose
voilà,
l'image
complètement.
Constamment, alors, grossissant les visages, exagérant un peu les expressions.
Je suppose que c'est des effets qui se veulent fantastiques. J'ai plus l'impression d'être dans une caricature. Moi, à un moment donné, je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans l'atelier vidéo de lycéens qui sont en seconde option cinéma, et encore je suis persuadée que certains font mieux quand même.
Vous aviez promis de la défendre un tout petit peu.
Voilà, donc je vais...
Je m'en veux de vous rappeler votre promesse.
Il y a autre chose qui m'a un peu agacée, puis après je... voilà. Je trouve quand même le gros souci de cette série pour moi, c'est que son seul point de vue, c'est l'imagerie. C'est-à-dire qu'on est dans l'imagerie du film de banlieue tout le temps, c'est scandé de rap. Alors, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai reconnu des morceaux que j'aime beaucoup, j'étais ravie, mais il n'y a que ça.
Superbe BO. Hein.
Voilà, oui, oui, tout à fait. Mais c'est quand même l'imagerie. Et c'est pas un point de vue, l'imagerie. Hein. C'est juste un premier degré littéral et très facile. On est dans l'imagerie du vaudou aussi. Je laisserai mes camarades parler de certaines scènes qui, moi, m'ont fait hurler de rire, honnêtement, et je pense pas que c'était l'enjeu. Et on est dans l'imagerie du film d'ado. Voilà.
Et maintenant, les points positifs.
Les points positifs, ce sont les acteurs. Moi, je trouve les trois jeunes que vous avez cités formidables. Mais vraiment, tous les trois sont très bien. Et pourtant, au départ, ils ont plutôt des archétypes et des stéréotypes à jouer qu'autre chose, ils s'en sortent très très bien. Et puis l'autre chose que j'aime bien, en tout cas c'était le point de départ qui moi m'intéressait, c'est que faire correspondre l'idée de la banlieue qui est donc à la périphérie, avec le fantastique qui est un genre à la périphérie, et avec l'adolescence qui est un âge mutant, je trouve que ça, cette façon de se réapproprier par la culture urbaine le genre du fantastique, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je suis pas sûre que ça soit réussi, mais en tout cas, ça donne envie. Voilà.
Benoît, alors, Lagan.
Moi, je suis...
Toujours sur Mortel, on m'a demandé
oui,
de rappeler
oui, oui.
Le titre des séries, donc voilà.
Donc Mortel, alors le Kechiche qui rencontre Buffy, je crois que c'est l'auteur, le créateur, et qui l'a même dit dans sa note d'intention à un moment donné, il voulait faire ça. Et justement, à partir du moment où il veut faire ça, ah ben on regarde. Et moi je pense déjà, il faudrait mieux qu'il cite par rapport à la réalisation plutôt le manga, parce que moi je trouve qu'on est dans une esthétique vraiment manga.
Et Kubrick, hein.
Et donc ça, moi ça m'a pas gêné en soi, hein, cette
ré...
moi, non, moi ça m'a pas gêné du tout en soi cette réalisation. À partir du moment où on l'accepte comme telle, comme sa signature. Ça me gêne
pas.
Elle
n'est pas un peu systématique quand même.
Elle est peut-être un peu systématique, mais à la fois, moi, elle ne m'a pas gênée. D'autant plus qu'elle est portée par des comédiens, effectivement, qui jouent très bien. Et je trouve que tout ce qui concerne le monde de l'adolescence, et ce n'est pas pour rien qu'ils viennent de Scam, par exemple, hein, le créateur de la série, Frédéric Garcia, il touche juste dès qu'il parle de l'adolescence sans le fantastique. Dans les relations entre les personnages, dans les dialogues à ce moment-là, il vise toujours très juste et même parfois avec de l'émotion, ce qui est assez rare dans les séries pour ados françaises du genre. Le problème, c'est le fantastique, c'est que Buffy... Il cite Buffy, moi je veux bien que Buffy soit un exemple, mais Buffy c'était soit de la poésie pure, soit c'était extrêmement drôle et du second degré. Là, on cherche le second degré. Les scènes vaudou, effectivement, ce démon, mais ridicule. C'est-à-dire qu'effectivement, on le voit, on en rigole, il ressemble à Joe Estar du pauvre. Donc, et c'est avec des lunettes de soleil étranges, avec du
les
rouge.
Les flammes de l'enfer, Benoît,
ouais,
enfin.
Non, mais ça, c'est ridicule. Donc moi, je sauve à moitié. C'est-à-dire que Mortel, c'est mortellement ennuyeux quand il s'agit du fantastique, mais c'est étonnant sur la partie de l'adolescence.
Voilà. C'est vrai que ça parle de harcèlement quand même, ça parle de déterminisme social. Les sujets à la Kechiche, entre guillemets, sont un petit peu là. Marjolaine, vous qui travaillez avec des jeunes, avec des étudiants...
Alors... D'abord, moi, je voudrais quand même sauver aussi le décor, parce que c'est filmé au Havre et qu'il y a cette espèce d'architecture brutaliste qui est très bien mise en valeur par la réalisation. Effectivement, quand elle se rapproche des visages, c'est beaucoup moins réussi, surtout que, en fait, il y a un problème d'équilibre, précisément entre Buffy et Kechiche, parce que il y a beaucoup de scènes où on est dans l'hystérie. Moi, j'ai trouvé que ça criait énormément, que les scènes de combat, elles vont trop loin, c'est vraiment too much. Et dans les effets de réalisation aussi, c'est too much. Et parfois,
il y a des moments de vraie poésie, effectivement, quand on est dans le réalisme, parce que effectivement, les comédiens, quand on arrête de les faire hurler et se taper dessus, eh ben, ils peuvent avoir des moments très beaux d'émotion, de tendresse. Ce que je trouve aussi très réussi dans le côté ado, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les profs. Ces personnages de profs, de pions, de CPE.
Ça vous parle, ça?
Oui, ça me parle. Et j'ai trouvé que c'était des adultes tout à fait crédibles, qui font ce qu'ils peuvent, qui ont des défauts, qui ont eux aussi pas complètement fini de grandir. Et ça m'a plu. Donc, effectivement, il y aurait eu des belles choses à faire avec peut-être un peu moins d'ambition.
Donc un avis commun en demi-teinte, mais qui sera peut-être prorogé ou contrarié l'année prochaine, puisque clairement une saison 2 est annoncée, qu'il y a ce qu'il faut en cliffhanger et en possibilité d'ouverture pour l'écriture de cette deuxième saison. Et bizarrement, je suis un peu comme vous, j'aurai une certaine curiosité à la découvrir. Alors je tiens à vous dire que pour les coulisses de l'émission, nous avons perdu le temps de la chanson Ariane Allard, qui est tombée dans la voix sensuelle d'Étienne Dao.
Ça fait depuis longtemps que je suis tombée dans la voix sensuelle.
Tout petit peu embarrassant, c'était vaudou, vaudou Étienne Dao, sensuel. Alors uniquement pour vous, ton corps tressaille, contorsion cosmique et subtil réflexe, sortilèges exquis dans ton vortex. C'est-à-dire que les paroles sont magnifiques. C'était extrait du dernier album à ce jour, Blitz 2017 d'Étienne Dao. Il sera en concert en France durant les mois de décembre, Brest, Rennes et Nantes en particulier, mais évidemment le pays breton. Et puis janvier, où il sera à Paris, à Pleyel le 23 janvier et à l'Olympia le 25. Vous avez vos places, bien évidemment, chère Ariane.
Absolument.
France Inter. série.
Petit conseil littéraire à la suite de la série Mortelle, donc sur Netflix. Je vous recommande la série de romans signée Ben Aaronovitch qui s'intitule Le Dernier Apprenti Sorcier. 6 volumes parus à ce jour chez J'ai lu dans la collection Les Derniers Millénaires. Alors pour le resituer, Ben Aaronovitch est un scénariste de télévision qui était apparu dans les années 80 et qui a fait ses premières armes en scénarisant quelques petites séries peu connues comme le Docteur Who par exemple, n'est-ce pas? Et la célèbre série hospitalière britannique Casualty. C'est en 2011, surfant sur le très petit succès d'Harry Potter, là aussi on l'a pas vu venir, faut dire les choses, qu'il se lance à son tour dans une saga ayant pour héros Peter Grant, un jeune officier qui, suite à sa rencontre avec un fantôme, intègre la folie, brigade du Met spécialisée dans les cas impliquant le surnaturel. Des intrigues fantasques qui se déroulent dans les rues sombres et pluvieuses de Londres, à découvrir pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça n'est pas parce que c'est un livre pour ados, une série pour ados, que le style est sacrifié pour autant. Ben Aaronovitch en a vraiment, c'est flamboyant, c'est drôle, avec un vrai sens de l'effet de surprise et du rebondissement. La deuxième raison, c'est cet humour à froid qui traverse les aventures de Peter Grant, une causticité purement british, se traduisant par un sens prononcé du non-sens, servi par un soupçon discret mais terriblement efficace du second degré. Et puis ce que je préfère sans doute dans les épisodes, c'est la manière dont l'auteur les situe dans un Londres mystérieux, minutieusement décrit avec un vrai sens du détail urbain et architectural. Un hommage à cette ville unique, théâtre de toutes les manifestations bizarres et insolites, prolongation du plaisir de cette immersion dans cette variation ésotérique et paranormale des romans de Charles Dickens. Ça s'appelle donc Le Dernier Apprenti Sorcier, 6 volumes parus à ce jour chez J'ai lu et dans la collection Les Derniers Millénaires. Et je sais que vous l'attendez celui-là parce que c'est une série que vous avez adorée. Je suis méchant. Tropique Criminel sur France 2 depuis le vendredi 22 novembre. 8 épisodes à ce jour. Ne riez pas. Entre 4 et 4 millions et demi.
4,3 millions pour être précis.
C'est ce que j'étais en train de dire, entre 4 et 4,5. Alors soyons précis, 4,5 pour le premier épisode, 4 pour le deuxième épisode. Précis, oui. Ça a tutoyé l'effroyable Mask Singer de TF1. Donc déjà, c'est on dire. A comme un petit peu envie d'aimer cette série Tropique Criminel sur France 2.
Bienvenue en Martinique.
Merci.
Alors vous avez de la chance pour une première scène de crime, c'est super beau.
Qu'est-ce qu'elle faisait dehors à 2h du matin?
Je sais pas. Boire, danser, baiser. C'est pas comme ça, pareil.
Elle est pas habillée pour aller en mer.
Parce que vous savez comment on s'habille pour sortir en mer, vous?
Ça m'amuse pas d'enquêter dans ton lycée.
Attends, c'est grave, là, maintenant ils savent tous que je suis fils de flic.
Police, reste en ordre.
Franchement, vous me le confiez une demi-heure, je le fais craquer, moi.
Ah ouais, comment? En pendant par les pieds du toit de l'hôtel de police?
J'avais plutôt pensé par les couilles.
Ah, mais vous êtes complètement folle!
Il m'a énervée aussi, là!
Et toujours comme ça, où j'ai le droit à un traitement de faveur.
Vous vous habituerez.
Mélissa, une policière émérite, vient d'être exonérée de toute poursuite dans l'affaire de corruption dans laquelle a trempé son mari. Elle débarque aux Antilles pour diriger la brigade d'investigation. Une femme flic posée et réfléchie, forcée de cohabiter avec son exact contraire, une collègue rentre dedans et peu subtile et peu amène dans ses méthodes. Ajoutez à cela deux ados très moyennement ravis d'avoir quitté la métropole, un patron caricatural qui semble ne jamais changer de chemise et une famille qu'elle avait perdue de vue. Vous l'aurez compris, les débuts de Mélissa vont s'avérer compliqués. La série est écrite par Eric Heider et Yvan Piètre, qui ont travaillé ensemble sur Alex Hugo et Joséphine Ange Gardien. Et on retrouve dans les rôles principaux Sonia Roland, qu'on avait découvert dans Léa Parker, Béatrice de la Boulay, qu'on a vu dans Les Revenants et Léo Mattei, et Julien Béramis. La question que je vais poser à Benoît, comment est-ce qu'on dit Candice Renoir en créole?
On dit Tropique Criminel. Mais, alors, c'est, par ailleurs, les créateurs ont travaillé sur Candice Renoir également. Donc, on est vraiment dans la veine du polar du vendredi soir de France 2. Donc, pour notre ami Stéphane, qui nous reproche de parler trop de séries françaises, c'est sûr que si lui regarde Succession et ce genre de choses, forcément que quand il va nous entendre parler de Tropique Criminel, il va tomber derrière son poste. Et pour autant, quand on regarde...
Ou devant, parce que c'est la radio, voilà. Ça a cet avantage.
C'est ça, c'est l'avantage. Et pourtant, quand on regarde une série policière du vendredi soir, on regarde Tropique Criminel au départ en se disant, bon, énième série policière. Ça se passe à la Martinique et je trouve que la façon dont la Martinique est filmée déjà est plutôt réussie dans le sens que ce n'est pas une carte postale, c'est plus géo que la carte postale. Donc, c'est géo dans le sens où ça ne nous montre pas forcément les lieux touristiques à visiter. Voilà.
Il faut attendre un peu le troisième et quatrième épisode pour se débarrasser de cela.
Non, ça, c'est sur le sujet de société, peut-être. Mais ça, j'y reviendrai peut-être après si j'ai le temps. Deuxième point, la découverte, quand même, de Béatrice de la Boulay, Hernadette, si vous connaissez le spectacle qu'elle fait, qui est assez génial, je trouve, en comparse de Sonia Roland. Et puis, moi, je trouve qu'au fil des épisodes, même si on aimerait que, sur le plan des sujets de société, on aborde plus de thématiques sociétales de façon plus forte, on reste beaucoup sur des thématiques familiales. Et à la fois, c'est insulaire. Sur une île, les problèmes sont souvent familiaux. Sur une île, on y vient parfois parce qu'on veut faire des choses qu'on peut pas faire ailleurs. Et tout ça est plutôt bien senti quand même dans la série. Maintenant, c'est une série produite par Thierry Sorel, qui a été lui-même directeur de la fiction de France 2. Alors, est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient des conseils littéraires de France Télé qui disent « Attention, faut peut-être rajouter un petit peu de dialogue ici pour expliquer, parce que notre téléspectateur, il pourrait pas comprendre. » Peut-être que ce qui manque ou ce qui ne va pas dans la série, c'est ça, justement. C'est parfois un poil surécrit et puis on préfère ne pas trop aborder certains sujets en attendant. Mais peut-être que c'est la bonne technique. Ça a marché. Donc, il va y avoir forcément avoir une saison 2 et qu'il faut espérer qu'en saison 2, du moins, moi, ça, c'est mon appel, qu'on parle en Martinique, par exemple, de trafic de drogue, qu'on parle de sujets qui concernent encore
plus... De problèmes économiques, d'égalité avec la métropole. D'environnement. Enfin, il y a de quoi nourrir.
Ben, peut-être en saison 2.
Ouais. Alors, Ariane, oui,
toujours sur Tropic Criminel. Moi, je serais un tout petit peu plus nuancée que Benoît, mais je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est bien sûr ce qu'on appelle la paire antagoniste, c'est-à-dire que c'est l'âme fatale au féminin. Donc, on a la fille un peu coincée, un peu rigide, un peu professionnelle et très consciencieuse, c'est Sonia Roland, qui joue un peu de façon un peu raide, je trouve, au départ, mais c'est son rôle est écrit de cette façon-là. Et puis, en face, on a la badass, on a la vilaine, on a la rigolote, la garçonne, et je trouve Béatrice de la Boulay absolument formidable. Moi, je la découvre, je le dis très honnêtement. Je trouve qu'elle a un sens du rythme et un vrai comique, et en même temps beaucoup de finesse. C'est-à-dire qu'elle arrive aussi à dissimuler un peu de fragilité à son personnage. Pour moi, c'est la révélation de la série. Qu'est-ce qui m'a gênée dans cette série? Je dirais que les enquêtes criminelles ne m'ont pas passionnée. Je les trouve un peu dociles, un peu classiques, un peu simplistes. Et surtout, les bisbis familiales dont tu parles, Benoît, c'est classique. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça se passe en Martinique, toutes les séries criminelles qu'on peut voir à la télévision française, forcément, pour essayer d'humaniser un peu ces personnages, il y a des problèmes. Et moi, par exemple, les problèmes des ados avec sa mère, je trouve que ça marche pas du tout. Mais ce que j'aime dans le duo, en revanche, et ça, je trouve que c'est assez inattendu, puisqu'on dit, voilà, c'est la féminisation, ça n'a pas deux garçons, c'est deux filles. C'est vrai que ça n'a jamais été vu. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi la réappropriation.
Enfin, ça n'a jamais été vu à la télévision française. Voilà. Parce que la télévision britannique se nourrit de duos féminins depuis longtemps.
On est vraiment dans une série française, hein, pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est aussi la redistribution, je dirais, du clash habituel entre ces deux personnages. C'est-à-dire que là, en fait, c'est la jeune femme blanche qui connaît particulièrement bien l'île et les particularismes locaux, alors que la jeune femme métisse qui est née dans cette île, mais qui en est partie très tôt pour des histoires familiales, et qui revient, redécouvre. Donc elle, c'est une double immersion pour elle. Il y a des enquêtes criminelles, puis aussi une enquête sur son passé et sur le passé de ses parents. Et c'est par le biais de cette jeune femme blanche et un petit peu atypique qu'elle va découvrir son île. Je trouve que c'est assez fin. Je dirais que pour moi, c'est un sentiment nuancé, mais j'ai envie de voir la seconde saison.
Marjolaine, Tropic Criminel, vous a-t-elle séduit?
Julie Lescaut sous les tropiques.
Mais c'est ça le problème, c'est qu'on reconnaît quand même beaucoup d'intrigues.
Moi, je me suis retrouvée dans les années 90. Effectivement, ces séries, comme il y en a déjà beaucoup à la télévision française, et je comprends, et il y a un public pour ça, et c'est évident, et c'est tant mieux. Moi, ce qui m'a gênée le plus quand même, c'est la représentation des Antilles, c'est vraiment les Antilles pour touristes, les Antilles pour métropolitain. C'est effectivement joliment filmé, mais c'est des plans au drone qu'on voit dans Des Racines et des Ailes, etc., etc. Moi, j'aurais aimé que sur une série comme ça, France Télé embauche des scénaristes martiniquais qui sachent de quoi ils parlent. Et je voudrais en profiter pour dire un mot d'un projet qui va être diffusé très prochainement sur France O et La Réunion Première. Ça s'appelle Des Juliettes et des Roméo. C'est une série de 9 courts-métrages écrits par des classes de collège et de lycée de Mayotte et de La Réunion. Ça a été tourné là-bas avec eux-mêmes, donc ces collégiens et ces lycéens, en comédiens, sous la supervision d'Isabelle Fougère et de Mickaël de Véverplana. Et c'est très joli et ça parle vraiment créole et ça parle vraiment des problèmes de là-bas et vraiment à ne pas rater sur France O et La Réunion Première au moment des fêtes, c'est formidable.
Eh bien, rendez-vous pris, on en fera peut-être un plateau télé, quelque chose, un conseil en tout cas. Merci à tous. Je tiens à vous dire que Marie-Annick Rimbaud, notre réalisatrice, m'insulte depuis 10 minutes à travers le micro en me disant « Non, mais Candice Renoir, c'est très très bien !» C'est pour dire la pauvreté des vendredis soirs de cette femme.
moi c'est musicien, ça m'a pépé c'est chantier. Mais moi monter bas, moi faire la confiance, faut expliquer moi, ça m'a pépé pour moi. Moi la cagoumé, doumé, 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 doumé. Lité, 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 doumé, doumé, doumé. Monsieur Président,
vient d'écouter Delgrès, Mister Président, un groupe de blues créole baptisé en hommage à Louis Delgrès, qui fut un colonel abolitionniste mort en 1802. Merci à Muriel Perret de nous l'avoir fait découvrir, parce que vraiment c'est magnifique. C'est extrait de leur premier album Moi, et si vous avez envie de les découvrir un peu plus, ils sont en concert jusqu'au 20 décembre, entre autres à Biarritz, Agen, Istres ou Strasbourg.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de la chronique tant attendue de Benoît Lagane, l'effet miroir. Et aujourd'hui, dans l'effet miroir, Catherine the Great et Hélène Mirren obligent, nous allons en parler dans quelques instants, retour sur le personnage mythique de Jane Tennyson.
Oui, c'est mon effet miroir, effet Mirren, si vous voulez.
Voilà. Attention, je
Il est content.
Est-ce qu'on le referait pas? Moi, j'ai envie qu'on le double, là, parce que quand c'est assez, voilà. Et tout de suite, l'effet Jane Tennyson.
Un effet miroir, effet Mirren, si vous préférez.
Ça marche encore.
Oui, parce que pour bon nombre d'auditeurs, Xavier, notamment d'auditeurs cinéphiles, Hélène Mirren reste The Queen, la reine de Stephen Frears, et c'était avant The Crown. Pour le vieil amateur de série, Hélène Mirren n'est ni impératrice de Russie, ni reine Élisabeth d'Angleterre au pluriel. Hein,
elle les a toutes faites.
Oui, ah ouais, elle a fait celle du 16e et son reboot des années 50. Hélène Mirren restera, pour tous les amateurs de série, cette inspectrice, Jane Tennyson, un personnage interprété 15 ans durant, entre 1991 et 2006 pour la chaîne britannique ITV. 7 presque mini-séries, 14 épisodes, pas plus, pas moins. Hélène Mirren ne voulait pas s'enfermer dans le rôle, a-t-elle dit. Alors, qui est Jane Tennyson? C'est une enquêtrice imaginée par la scénariste et romancière Linda LaPlante, c'est comme ça qu'on dit. Et elle l'a créée en 1991. Et tout commence pour cette enquêtrice par la mort d'un de ses collègues, suite à une crise cardiaque. Il faut remplacer au pied levé l'inspecteur John Chefford dans l'enquête sur le meurtre d'une prostituée. L'inspectrice Tennyson est en droit de récupérer l'enquête. Elle est celle qui, dans l'équipe, a le plus d'ancienneté. Enfin, qui est le plus gradé aussi, sauf qu'on est en 91. Et à cette époque-là, quoique aujourd'hui c'est pas mieux, l'équité professionnelle entre hommes et femmes est loin d'être une réalité.
Eh bien évidemment, sinon il n'y aurait pas eu de série, Jane Tennison va décrocher le poste d'inspectrice en chef.
Oui, car Jane Tennison est non seulement en droit de demander le poste, mais elle est de toute façon la plus compétente. Jusque-là sous-employée dans des tâches forcément administratives, ses collègues machistes voient d'un mauvais œil qu'elle dirige les opérations, et toute la série vaut le détour autant pour les affaires que pour la bataille que va devoir mener l'enquêtrice pour s'imposer dans ce monde d'hommes. Au fil des saisons, comme toute grande série policière anglaise, on y parle de sujets à forte dimension sociétale. Mmh. Ici, une enquête dans la sphère politique entre corruption et business immobilier, ou encore une affaire sur un réseau pédophile. Et contrairement à une Julie Lescaut chez nous, Jane Tennison a des failles. Elle n'hésite pas à quitter son compagnon, préfère le travail à une vie de couple durable, fume comme un pompier et vire même alcoolique, comme bon nombre de ses collègues masculins. Mais dans chaque épisode, à l'image du combat qui ne doit jamais cesser pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, Jane Tennison ne lâche pas l'affaire. Car si elle n'est pas la première femme flic du genre à la télé, il y a eu Sergeant Anderson dans les années 70 aux États-Unis ou Cagney et Lacey encore, un duo de femmes flics dans les années 80, j'y reviendrai peut-être tiens un jour, la façon dont suspect numéro 1...
Sergeant Anderson,
ah oui, oui, on y reviendra, forcément. La façon dont suspect numéro 1 met en scène le combat d'une femme face au machisme ambiant est restée. D'ailleurs, les Américains ont tenté une reprise du concept en 2011 avec Maria Bello dans un personnage plus physique mais où l'enjeu était le même, et ITV a proposé en 2017 un préquel Prime Suspect 1973 sur les débuts justement de Jane Tennison dans la police. Bon, le combat pour l'égalité n'est pas encore gagné. Alors voilà. Pour l'effet miroir des années 2020, je ne sais pas vous, mais moi je milite pour une reprise de Prime Suspect au long cours et pas uniquement en 13 ou 14 épisodes. Alors qui signe avec moi ?
Mais
moi.
Dès demain, cher Benoît.
Moi je signe aussi.
Merci beaucoup pour cette chronique et à réécouter en podcast sur le site de l'émission Une heure en série. Et nous ne quittons pas Hélène Mirren, mais comment pourrions-nous nous permettre de quitter cette magnifique, cette grandissime comédienne, puisqu'elle est la vedette de Catherine the Great. Oui, je vais le refaire.
Ah oui, on aime bien.
J'aime bien doubler mes mauvais effets. Une mini-série que Canal diffuse depuis le 25 novembre, 4 épisodes. Pété thune, hein, quand même. Il faut quand même dire une chose, ça dégouline d'argent. Ça a été produit par HBO, c'est écrit par Nigel Williams, à qui l'on doit l'adaptation pour la série télé justement du Nom de la Rose, dont le DVD vient de sortir chez Wildside. Mais il était également l'auteur d'Elisabeth Ier, avec déjà Hélène Mirren, comme quoi, vous voyez, on ne peut pas la quitter. Philippe Martin est à la réalisation, il a réalisé des épisodes de The Crown, et l'excellent Meurtre de l'Orient Express dans la série des Hercule Poirot avec David Suchet. Nous sommes en 1762, après avoir ravi la couronne à son époux Pierre III, et l'avoir probablement aidé à passer de vie à trépas, hein, c'est même sûr, Catherine II monte sur le trône, devenant ainsi impératrice de Russie. Une étrangère venue d'Allemagne quelques années auparavant, sans même parler la langue, une insatiable mangeuse d'hommes dont l'ascension ne plaît pas à tout le monde, en particulier à son fils, qui ne lui pardonne pas sa félonie et sa trahison. Une despote illégitime pour beaucoup, qui, tout à son amour pour le pouvoir et le beau lieutenant Potemkin, donc ça c'est à voir, ne voit pas gronder autour d'elle les révoltes de l'aristocratie et d'un peuple victime de son autocratie.
Something needs to change. I believe in reason. I believe in progress. And when the indomitable Russian people fight for these things, then Russia,
your Russia, Russia, my Russia, Russia, our Russia,
will be
truly
and eternally great.
Great.
Do you know what I hold in my hand? Absolute power.
Désolé pour nos auditeurs qui n'aiment pas les bandes annonces en version originale. Il n'était pas question de se priver de la voix unique et extraordinaire d'Hélène Mirren, qui tient donc le rôle titre Catherine the Great. Elle est accompagnée par Jason Clarke, qu'on a vu récemment dans Cœurs ennemis et cimetières, grand écart quand même, et Rory Kinnear, que j'adore et qu'on a vu récemment dans Years and Years et l'excellent Penny Dreadful, dont nous attendons très prochainement le spin-off. Marjolaine, une femme de pouvoir, des costumes, des décors extraordinaires. Ils ont filmé là où Catherine the Great a régné. Est-ce que ça suffit à valider une série ?
C'est la première série historique ratée de HBO. L'extrait est parfaitement choisi parce que on entend ces rires qui n'existent que dans les fictions à costume. Il n'y a que quand on a une perruque sur la tête et qu'on est dans des espèces de
Retirez votre perruque et sortez.
De chapeau et avec des trucs à chandelle qu'on rit comme... enfin, personne ne rit comme ça. Je suis d'accord qu'on n'a pas d'enregistrement du 18e siècle, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans les films à costume, dès qu'on voit des gens à perruque, il faut qu'ils rient comme ça. Je voudrais qu'on m'explique parce que moi, je suis ça me laisse totalement froide et en dehors de ce qui se passe. Je n'ai eu aucune empathie pour aucun des personnages. Le contexte historique nous passe complètement à côté. Tout est empesé, faux, lointain. Ça sent la naphtaline. Effectivement, il y a de l'argent partout. Mais c'est pas beau. Surtout, c'est pas intéressant. Et c'est vraiment dommage parce que le personnage de Catherine de Russie, elle a tout pour être un formidable personnage de série. C'est une princesse allemande qui devient tsarine de Russie et qui essaye d'ancrer son pays du côté de l'Europe sans y arriver. On est à la fin du 18e siècle, au moment où il y a la révolution en France, où il y a eu la révolution aux États-Unis. Elle est extrêmement cultivée. Elle connaît tout ça, elle est fan de lumière, elle a envie de réforme et en même temps elle n'y arrive pas. C'est une femme intelligente, de pouvoir, cultivée, à la sexualité libérée certes, mais qui est aussi une monarque absolue de droit divin, qui a un fils qu'elle n'aime pas et qui va malgré tout lui succéder. Bref, pour moi il y avait vraiment énormément de choses pour nous la rendre humaine. Et là, ce qu'on voit dans la série, c'est une caricature d'elle-même. C'est vraiment la femme de pouvoir dans tout ce qu'elle a de traditionnel. Je fais un petit teaser, c'est tout l'inverse de The Crown, où le talent de Stephen Morgan a été de nous rendre une reine pas du tout intéressante, complètement dramatique. Et là, on est vraiment dans l'inverse et je trouve ça terrible.
Une femme à la sexualité débridée, je me tourne vers vous, Ariane Allard, évidemment. Qu'avez-vous pensé de Catherine the Great?
Je serais peut-être un petit peu moins sévère que
Marjolaine. Plus sévère, c'est compliqué. Hein, c'est l'exécution capitale, juste après.
Je pense qu'il faut... On parle d'un truc très clair, c'est que c'est ce qu'on appelle une série de prestige, donc avec les bons et les mauvais côtés de ce que ça peut présupposer. Donc tout ce qui est de l'ordre de la direction artistique, c'est-à-dire les décors et les costumes, ça en jette. Le problème, c'est que d'un strict point de vue dramaturgique, ça n'a aucun souffle. Moi, je pense que le vrai problème, et je rejoins Marjolaine, c'est une femme qui a quand même deux choses que je trouve très passionnantes, vraiment du strict point de vue narratif. C'est-à-dire, un, c'est une usurpatrice. Donc, je trouve qu'au niveau de l'intrigue, c'est très peu traité. Ça commence là-dessus, puis après, pouf, ça s'en va. Et je veux dire, vers quoi ça va, et comme d'habitude, vers quoi ça va? Vers des intrigues sentimentales, ce qui est fort dommage. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est une autocrate et une autocrate éclairée. C'est-à-dire, ça se situe avant les idées. Donc, c'est une femme qui, en plus, est moderne. C'est-à-dire qu'elle essaie d'ancrer son pays, qui est quand même un pays qui pratique les serfs, etc.
Elle veut abolir l'esclavage.
Elle veut abolir. Elle n'y arrivera pas, en tout cas, c'est ce que nous dit la série. Et mais c'était toute petite touche comme ça, politique, alors que profondément, cette femme est passionnante de tous les points de vue, quoi. Et qu'est-ce qu'on nous sert? On nous sert une femme qui, au départ, est présentée comme une croqueuse d'hommes, qui, en fait, a un cœur d'artichaut, comme d'habitude, parce que quand même, faut pas trop exagérer, hein, voilà. Et donc, elle tombe éperdument amoureuse d'un lieutenant, ou je ne sais plus qui c'est. Enfin,
le lieutenant Potemkin,
qui est pas si mal, hein. Moi, je trouve que Xavier, vous êtes un petit peu sévère, je le trouve plutôt charmant, l'acteur.
Je m'assure.
Voilà. Mais bon, et en fait, c'est ça le cœur de la série. Et on se dit, mais quel dommage, quand même, c'est Hélène Mirren, qui est quand même une actrice absolument remarquable. On sent qu'elle est contente d'être là.
Elle est productrice.
Il y a quelque chose dans son regard, dans sa prestance, elle a tout pour le jouer, ça. Eh ben non.
Benoît Lagane, Catherine the Great.
Oui, alors, tout le problème de Catherine the Great, c'est que c'est une mini-série en 4 épisodes. Et je pense, Marjolaine citait The Crown, bah The Crown, ils prennent 60 épisodes et 6 saisons pour nous raconter Elisabeth II. Donc, pour nous raconter Catherine II de Russie, il aurait fallu peut-être autant. Donc, à partir de ce moment-là, ils font des choix. Et ils auraient pu faire le choix clair du soap complet. Et uniquement ça, jouer encore plus avec les dorures. Et déjà, ils nous en mettent un paquet.
Plus, il faudrait regarder avec des lunettes de soleil.
Il manque les guirlandes.
Et pourquoi pas, en période de fête, ça peut se voir aussi comme ça. Et si on part en se disant, on va voir ça, alors on passe peut-être un moment assez agréable. Le problème, c'est tout ce que vous pointez sur la politique. Effectivement, c'est que du décor, justement, et du petit décor. C'est caché derrière les dorures. Il est bien évidemment question de la Révolution française qui est loin, là-bas, et qu'il faut freiner. Enfin, est-ce que ça peut influencer, etc. Donc, moi, j'ai pas passé un mauvais moment, à vrai dire, à regarder ces 4 épisodes. Mais à partir du moment où j'ai compris que j'allais être dans du Sissi pour HBO, j'étais content.
On s'ennuie un petit peu quand même.
Ça, c'est quand même un peu la formule
dans
de l'émission.
Sissi
pour HBO. Voilà, il aura fallu pas mal d'années pour décider Catherine the Great. Il vous a fallu 5 minutes pour le faire. Hein, c'est une belle évolution. Dance off a brick.
Hold my hand and pull me close. Next to me, kiss my cheek. Cast many days. Day three, take me to a deep river. Steal a kiss when I'm lost in the mist. Mr. River for me. Once I'm yours to obtain. Once my fruits are for taking. Then you flow through my veins. Do you still think? Get bound by his poisonous chains. For a man who can follow his heart and stand up in my holy terrain. I am blue when the moon hits my skin right. Hot pink when you open up my sweet thighs. Pull you in and your life can begin. Cause it's early days. Will you still be there for me? Now I'm yours to obtain. Now my fruits are for taking. And your fingers are stained. Do you still think I'm beautiful? When you light me in flames. My love is so beautiful.
Water the corn, play with snakes in my man. Oh, yeah, making you vulnerable, watch me drown in my pain. I feed you poison, ain't forever my lady. Oh, throw loads of God on you just to fall asleep. Pray for my sins, make me stronger while I'm weak. We die together, the prophecy complete, yeah. We can how we touch the sky until we deceased, yeah. And if you pray for me, I know you play for keeps, yeah. Calling my name, calling my name. Taking the feeling of Prometheus ain't no way.
Venons d'entendre la voix magnifique de FKA Twigs dans son titre Holy Terrain, une auteure, compositrice anglaise d'origine jamaïco-espagnole qui cite Siouxsie and the Banshees, Nina Simone et Billie Holiday parmi ses références. On ne peut pas rêver mieux et elle fait partie de la playlist de France Inter, bien évidemment.
France Inter, une heure en série.
Et c'est le moment où je vous parle d'une série encore inédite en France. Rassurez-vous, elle ne tardera pas à être diffusée, car je ne vous parle pas d'une série inédite comme les autres, mais de la, en majuscule, série inédite de l'année, la série que le monde entier attend et qui ne sera enfin disponible en France que le 31 mars sur la plateforme Disney. Je veux bien évidemment évoquer The Mandalorian, la première série live dérivée de l'univers Star Wars. Alors pour les spécialistes, chronologiquement, cette série se déroule entre le retour du Jedi, épisode 6, cherchez pas à comprendre Benoît, ça vous dépasse, et le réveil de la Force, épisode 7. Nous suivons les pas d'un chasseur de primes ayant de plus en plus de mal à dénicher des boulots lucratifs et qui se voit confier la mission de retrouver une cible dont la valeur semble inestimable. Quelle n'est donc pas sa surprise lorsqu'il tombe sur un landau contenant un petit être chétif. Je m'arrête là, je ne veux rien divulgâcher évidemment du contenu de ce landau, même si je sais que les fans de Star Wars savent déjà de qui il s'agit. C'est Jon Favreau qui est à la tête de cette série particulièrement importante pour la maison Mickey, puisqu'elle est un des produits phares du lancement donc de cette fameuse plateforme Disney+. C'est peu dire que Jon Favreau est une valeur sûre de la maison Disney, puisque cet acteur réalisateur a mis en scène quelques-uns des gros récents succès de la maison Disney, tels que Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion et deux épisodes d'Iron Man. Éminent connaisseur du travail de George Lucas, sa série est un hommage direct au créateur de La Guerre des Étoiles, savant mélange de western pur et de cinéma japonais dont on sait que George Lucas est grand fan. On pense tout particulièrement à la saga Baby Cart, où un samouraï encombré d'un enfant emmailloté dans le dos devait se livrer à d'époustouflants combats au sabre. Sur la ligne de départ, tout est en place. Les sabres laser, les droïdes, les jawas criards, les gentilles créatures poilues et les monstres carnivores. Manque juste, à l'issue des deux premiers épisodes, un rien de souffle feuilletonesque. On a un peu l'impression d'un long métrage étiré, un rien mécaniquement d'ailleurs du côté du scénario, et surtout d'un soupçon d'originalité. C'est efficace, indéniablement, c'est soigné, c'est parfait, c'est prometteur, mais on attend encore la suite pour être totalement conquis. The Mandalorian sur Disney+, chez nous, à partir du 31 mars. Et c'est l'heure du plateau télé, c'est-à-dire que vous allez vous charger de recommander à nos auditrices et nos auditeurs de quoi satisfaire leur appétence de série pour ce week-end. Et nous commençons, puisque vous vous êtes auto-teasé tout à l'heure, ça ne durera pas, hein, Marjolaine.
Elle est trop maligne.
Cette manière comme ça d'annoncer son rendez-vous, The Crown, Netflix, dont la série 3 est actuellement en cours de diffusion.
Oui, alors The Crown, c'est une série pas du tout monarchiste sur la monarchie. Et je trouve ça intéressant. Il faut vraiment sortir de cette idée que c'est la série qu'on regarde sous un plaid avec une tasse de thé. C'est une vraie série politique. Les personnages ne sont pas du tout sympathiques. Je trouve que c'est une vraie prouesse d'écriture de faire d'Elisabeth II un personnage principal d'une série, parce que c'est quand même la personne qui a eu la vie la moins mouvementée du monde, même si, fort heureusement, elle a une famille.
Ça change, il y a un petit scandale sexuel avec le fils, là, pas
voilà.
Mal.
Alors, heureusement qu'elle a une famille. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans cette saison 3. Les deux premières saisons de The Crown étaient centrées vraiment sur son accession au pouvoir et surtout sur son couple avec Philippe. Dans cette troisième saison, donc, où Claire Foy est remplacée par Olivia Colman, formidable, elle apparaît vraiment en chef de clan. Et il y a un côté un peu mafia, quasiment mafiosa, les Sopranos, etc., que je trouve extrêmement réussi. En plus de ça, au regard de la récente interview télé catastrophique du prince Andrew, je trouve que cette série permet justement de mieux comprendre comment ces personnes-là, qui font partie des ultra-riches, sont déconnectées absolument de la société qui les entoure. Et sans rien spoiler, les épisodes pairs de cette troisième saison, donc le 2, le 4, le 6, le 8 et le 10, sont absolument formidables.
Merci beaucoup, The Crown sur Netflix. Les trois saisons sont disponibles, mais la troisième vient donc d'être dévoilée. Benoît, vous adorez les séries médicales.
Oui.
Ça, c'est votre enfance qui revient quand vous jouiez au docteur. Mmh. Eh bien, New Amsterdam sur TF1 a eu vos faveurs.
Oui, oui, oui. Et je suis ravi que cette série arrive, d'autant plus que TF1 nous l'avait teasé dès cet été. On l'attendait. Elle arrive enfin, donc, depuis mercredi dernier, New Amsterdam. Donc, une série adaptée des mémoires, donc, d'un grand ponte de l'hôpital public new-yorkais, Eric Mannheimer. Il est d'ailleurs producteur aussi de la série. Donc, le personnage principal de la série s'inspire de ce médecin. C'est l'histoire de New Amsterdam, cet hôpital public new-yorkais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Good Doctor, à Doctor House ou à Grey's Anatomy, le titre de la série, c'est le nom de l'hôpital. Déjà, ça rappelle un peu plus le fait que ça rapproche d'urgence. C'est-à-dire que l'importance, c'est le lieu. Dans ce lieu, il y a ce médecin chef, bien évidemment, qui est un peu une sorte de Frank Capra de l'hôpital. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est le bien du patient et il veut tout changer. Il veut virer toutes les racailles de l'hôpital qui se font du fric sur le dos de patients qu'ils ont transformés en juste
machine à faire des chèques.
Donc tout commence par ça, et ça c'est plutôt bien, mais sauf que très vite on découvre autour de lui d'autres personnages, le psy qui va avoir un rôle important, la directrice des urgences bien évidemment, le cardiologue, etc. Et ça devient une série qui parle de la société américaine un peu comme le faisait Urgence, alors avec peut-être moins de finesse qu'Urgence, mais c'est vrai qu'à l'heure des Good Doctor et autres séries de ce genre, ça fait du bien de retrouver cet univers-là aujourd'hui sur une chaîne comme TF1.
Merci beaucoup Benoît. New Amsterdam sur TF1 et Ariane va dégainer avec un chef-d'œuvre.
Oui,
disons les choses avec elles sont. Sherlock sur Warner TV.
Et un peu sur Netflix également. Alors bon, Sherlock bien sûr, pour ceux qui éventuellement se seraient terrés dans un bunker imperméable aux ondes et aux réseaux depuis 9 ans, hein, puisque le premier épisode de la première saison a été diffusé le 25 juillet 2010 sur la BBC. Donc Sherlock, c'est l'adaptation contemporaine des aventures de Sherlock Holmes, ce détective fameux créé par Sir Arthur Conan Doyle. Et disons-le, un petit joyau de la couronne Byron et de la littérature britannique, je trouve. Donc cette fois, on le retrouve dans le Londres des années 2010, armé de son sens inouï de la déduction, d'une délicieuse arrogance aussi, il faut bien le dire, et d'un goût irrépressible pour Internet et les SMS, puisqu'il textote plus vite que son ombre. Il est accompagné du docteur Watson, qui lui est un ancien soldat blessé en Afghanistan, reconverti en blogueur. Et ils aident tous deux Scotland Yard à démêler des intrigues on ne peut plus ardues. Bref, les bases sont bien de bien là. On les retrouve d'ailleurs dans les titres de chacun des épisodes. Mais sans, et c'est ça qui est formidable, et c'est pour ça que j'adore Xavier, vous aussi, sans que jamais l'inventivité ne soit bridée. C'est-à-dire que Sherlock est pour moi un modèle à la fois d'adaptation et de création. On peut d'abord remercier ces deux auteurs et showrunners qui sont Stephen Moffat et Mark Gatiss. Mark Gatiss interprétant par ailleurs le frère de Sherlock, Mycroft. Et puis bien sûr, bon, je trouve qu'ils ont à la fois su rester fidèles et en même temps dépoussiérés, je trouve, avec beaucoup de jubilation.
Le chien des Baskerville est un chef-d'œuvre d'adaptation.
Voilà, absolument. Ils appellent ça les chiens de Baskerville pour montrer la toute petite nuance à chaque fois pour chacun des titres. Je n'en dirai pas davantage. Et puis les acteurs.
Ah bah très bien.
Non, les deux acteurs, il faut absolument citer Martin Freeman, bien sûr, dans le rôle enrichi du docteur Watson, et forcément Benedict Cumberbatch dans celui de ce Sherlock qui est considéré comme un autiste aspergé et qui est à la fois brillant et sexy.
Comme vous l'êtes de toute façon. Cher Ariane, Sherlock sur Warner TV et sur Netflix, juste citer que le duo, donc le tandem des auteurs de Sherlock, vient de signer un Dracula dont la bande-annonce a été révélée cette semaine et qu'on a très envie, évidemment, de découvrir. Une heure en série, c'est fini. Mille merci à vous trois, Ariane, Benoît et Marjolaine, d'y avoir participé. Nous vous avons timidement recommandé, hein, disons les choses telles qu'elles sont, Mortel sur Netflix, Tropic Criminel sur France 2 et 4 The Great sur Canal+. La semaine prochaine, nous évoquerons Bad Mother sur Teva, Prise au piège sur M6 et Servant sur Apple TV, une émission à réécouter en podcast. Il y a un site internet où vous pouvez nous envoyer vos courriers, même ceux comme ceux d'aujourd'hui qui étaient un peu critiques. Tant mieux, ça nous aide à nous améliorer. Cette émission était réalisée comme chaque semaine par Marie-Annick Rimbaud. La programmation musicale signée Muriel Pérez est préparée avec l'aide inestimable d'Amel Kaldi et à la technique Charles Pellabon.